L'arrivée d'un nouveau mot dans le dictionnaire en dit toujours long sur notre époque. Divulgâché vient d'entrer dans le petit Larousse. Divulgâché révélait prématurément un élément clé de l'intrigue d'une œuvre de fiction. C'est un mot valise, contraction de divulguer et de gâcher, un joli vocable venu du Québec qu'on peut à loisir utiliser pour ne pas dire spoiler. J'aimerais que nous interrogions aujourd'hui cette obsession contemporaine. Pourquoi et comment est-il devenu si grave de raconter la fin ou le milieu d'une série télé? Après tout, on n'en faisait pas tout un flan quand les critiques de cinéma ou même les bandes-annonces racontaient tout le film. Pourquoi serait-ce différent pour les séries? Se pencher sur notre allergie au spoil permet de comprendre le pouvoir d'attraction des séries, mais aussi leur logique économique. Car quand on nous conjure de ne rien révéler, on nous pousse aussi à tout regarder de toute urgence. N'ayons pas peur d'aborder ce sujet sous l'angle judiciaire. Si le spoil est vraiment un drame, y a-t-il un délai de prescription, une durée au-delà de laquelle il est autorisé de parler? Et peut-on plaider la bonne foi si on spoil par accident, par exemple? J'attends vos réactions, chers auditeurs, sur notre site internet ou sur l'application France Inter. Le spoil est-il un crime? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Avec trois invités en direct autour de la table, un philosophe, une scénariste et un critique de série. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Dorothée.
Le philosophe, c'est vous. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien grâce à votre petite philo de la vie quotidienne dans l'émission d'Ali Rebéi, grand bien vous fasse. Vous êtes prof de philo dans un lycée de région parisienne. Vous nous confirmez que le bac est un peu chaotique cette année d'ailleurs?
Non, tout va très bien.
Bien sûr.
J'ai le premier résultat de mes élèves et bravo à eux, ils l'ont eu.
Ils l'ont tous eu?
Non, pas tous, mais bientôt.
Bravo à ceux qui l'ont eu. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les séries et votre dernier livre s'intitule « Des philosophes et des héros » chez First Edition, où l'on apprend entre autres que Monica Geller de Friends est sans doute une lectrice de Descartes.
Oui, absolument.
Parce que...
elle ne le sait pas forcément, mais parce que comme Descartes, elle nous apprend à mettre de l'ordre dans notre vie, à procéder par méthode. C'est un personnage qui est très maniaque, on va dire. Mais cette maniaquerie, je sais pas si ça se dit, eh bien en fait, c'est une façon pour elle de chasser un peu le désordre de son existence et même dans son rapport à elle-même. Parce que pour les fans de Friends, on sait que Monica a eu des problèmes de poids quand elle était adolescente et jeune adulte. Et que ce souci finalement de l'ordre, de la mise en ordre, notamment dans la cuisine, donc le souci d'adopter des méthodes, lui permet de reprendre la maîtrise de son propre corps et de sa propre vie.
Il y a des ponts passionnants à faire entre la culture pop et la philosophie, vous allez nous le prouver pendant une heure. Marie Roussin est en face de vous, bonjour.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue sur France Inter, vous êtes scénariste, on vous doit notamment les deux premières saisons de Bracelet Rouge, série diffusée sur TF1, qui a rencontré un joli succès, hein, critique et public, adaptation d'une série espagnole dont les héros sont des adolescents malades qui vivent à l'hôpital. Quand on dit ça, c'est toujours un peu sinistre. Et pourtant, cette série était réjouissante. Elle l'est d'ailleurs.
Elle parle plus de la vie que de la mort.
Que de la mort, que de la maladie. Vous êtes aussi l'une des scénaristes dans un genre totalement différent de la série Un village français sur France 3. Série qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale dans une commune fictive du Jura. Vous êtes passée par les États-Unis aussi. Vous avez travaillé pour Borgia, je crois.
Oui.
Et vous planchez en ce moment sur une nouvelle série pour Amazon. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Je ne suis pas sûre.
Ce sera la première série française d'Amazon.
Voilà, ça on peut le savoir.
Un titre, une intrigue,
non,
une époque.
On va pas spoiler.
Avant même qu'elle existe. C'est contractuel, elle n'a le droit de rien dire, évidemment. Et le troisième invité, je le disais, est critique de série. Bonjour Pierre Langlais.
Bonjour.
Bienvenue, journaliste à Télérama, spécialiste des séries. Vous animez aussi un podcast produit par Binge Audio qui porte un nom délicieux. Un épisode et puis j'arrête.
Un épisode et j'arrête.
Or qu'on a
fêté le centième il n'y a pas longtemps, ouais, on a du mal à s'arrêter.
C'est un vœu pieux ça, un épisode et j'arrête, évidemment.
Oui, c'est évidemment une plaisanterie.
Combien de fois par jour vous accuse-t-on de tout divulgâcher, Pierre Langlais?
Assez rarement parce que je suis très prudent.
Ah c'est vrai?
Oui, je mets toujours des petites annonces au début de mes articles en disant « Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode, ne lisez pas cet article ». Mais il y en a quand même qui le lisent.
Ça vous agace ces reproches, sincèrement?
Oui, c'est très agaçant parce que si on fait très attention, il n'y a pas de raison qu'on nous reproche de divulgâcher ou de spoiler. Donc oui, c'est scandaleux quand c'est balancé comme ça sans prévenir. Mais quand on prévient, pourquoi serait-on victime de reproches?
Mais le métier de critique porte en lui la potentialité quotidienne.
La nécessité, parce que pour analyser une œuvre, il faut bien parler de l'œuvre dans sa totalité, ce qui est très difficile avec une série télé, mais encore une fois, un homme prévenu, un téléspectateur prévenu en vaut deux, donc soyons prévenus.
Alors je vous connais, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons recevoir énormément de messages pour nous reprocher de trop employer un mot anglais aujourd'hui. Je voudrais donc tout de suite faire deux précisions. La première, c'est que nous avons prévu fin juillet un débat sur l'omniprésence des mots anglais dans notre vie quotidienne. Donc ce sera l'occasion de nous inonder de courriels furieux, comme vous l'avez fait d'ailleurs mercredi hein, pendant l'émission sur les applications de rencontre. On a reçu beaucoup de messages furieux. Parce que les invités parlaient de like, de match et de swipe sur Tinder. Deuxième précision sémantique, celle-là, spoil est en effet un mot anglais qui signifie gâcher ou gâter, mais son étymologie nous ramène en France, figurez-vous. Les Anglais ont emprunté ce mot à l'ancien français espiller, qui signifiait dépouiller, piller et même spolier, le tout venant du latin spoliare. Donc cet anglicisme spoil est à l'origine un gallicisme. Et ça, je l'ai appris en lisant le livre d'Aurore Vincenti, qui sera justement notre invitée dans le débat sur l'omniprésence du franglais dans nos vies. Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'll send a call, all right, let's go now. C'était Jungle sur France Inter, Casio. On parle de spoil aujourd'hui ou de divulgachi, émission préparée par Caroline Pomès, réalisée par Lola Costantini. Rémi Sistiaga et Mathias Alléon sont à la technique. Programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et je n'oublie pas notre précieuse stagiaire Camille Kaufmann.
Il est votre pire cauchemar. Il ne connaît pas la pitié.
En fait, c'est le flic qui a tué la fille. Et à la fin, il meurt.
Bah dis donc, c'est quoi cette tête? Ah, t'es dégoûté pour l'épisode 9, c'est ça? T'as vu que c'est qui meurt?
Non, justement, j'ai pas vu. Tu dis pas, merde!
Le spoiler, il connaît la fin de toutes les séries.
En fait, c'était son frère caché. Et à la fin, il meurt.
Non, je me suis pas tapé 5 saisons complètes de Breaking Bad pour qu'on me spoil à la fin comme ça.
Et si je te spoil la fin de Game of Thrones, qu'est-ce que tu vas faire, hein?
Personne ne me spoil la fin de Game of Thrones. Vous arrêtez avec vos spoilers de merde.
C'est pas la fin du roi lion, le lion les rois, mon gars.
C'est le spoil.
Ah oui, quand je vous dis que tout cela est très très grave. La scénariste Marie Roussin est avec nous. Vous êtes l'auteur, je rappelle, de Un village français notamment et des bracelets rouges sur TF1. Encore un mot sur cette histoire sémantique. Vous dites, vous, divulgâcher?
Divulgâcher, pas
non.
Du tout.
Spoiler, oui.
Spoiler beaucoup, mais espier, ça me plaît beaucoup.
Vous allez l'adopter.
Ah, mais ça me plaît énormément. Je l'imagine très bien.
C'est très très grave.
Tu vas pas m'espier, ça.
Tu vas pas m'espier. Sur Un village français, d'ailleurs, cette série était-elle spoilable?
Mais bien sûr.
Je crois qu'à la fin.
Mais évidemment, en fait, je pense que l'enjeu ne reposait pas tellement sur la question dramatique du départ des Allemands. On sait qu'on est en France aujourd'hui et qu'on n'a pas d'Allemands au-dessus de nous. C'était évidemment tout autre chose. Et il y avait plein de choses qu'on pouvait révéler avant la fin de la saison.
Il y a eu des événements malheureux d'ailleurs en la matière sur cette série-là?
Comme ça, j'en ai pas le souvenir, mais alors moi j'étais du bon côté.
Vous connaissiez l'histoire.
On pouvait pas me gâcher.
Est-ce qu'il y a un dispositif d'écriture d'ailleurs pour éviter les fuites, pour éviter les éventuels spoils?
Non, en France, on nous prie de pas révéler comme ça et de pas crier sur tous les toits ce qui va se passer. Aux États-Unis, je pense qu'il y a des protocoles beaucoup plus stricts.
Ouais. Pierre Langlais confirme, effectivement, journaliste à Télérama, je le rappelle. Comment se passent vos relations avec Netflix, par exemple?
C'est un cas particulier, Netflix, parce qu'ils mettent les séries en entier d'un coup. Donc en fait, les gâchages et les spoils peuvent aller très très vite dans les heures qui suivent la mise en ligne. Et Netflix et de plus en plus de studios américains, hein, c'est surtout américain, ça arrive en France de temps en temps, mais c'est surtout américain, envoient aux journalistes des embargos qu'on est contraint de signer pour avoir accès aux épisodes en amont. Parce que pour faire notre travail, il faut qu'on puisse voir des épisodes en amont. Donc en amont, on reçoit un embargo, il faut signer, s'engageant à ne pas révéler l'intrigue avant la mise en ligne. Après la mise en ligne, évidemment, si on veut être cruel avec les internautes, on peut balancer les éléments de l'intrigue, puisque n'importe qui peut avoir vu la série. Mais avant, on peut pas. Et puis maintenant, il y a un nouveau truc qui s'appelle les spoiler lists, alors qu'ils sont un enfer, parce qu'en fait, ça dit, alors, vous ne direz pas que John est en fait le truc, vous ne direz pas que machin truc, et ça fait une liste de trucs qu'on signe aussi en tant que journaliste. Et le problème, c'est que il y a les épisodes concernés qu'on nous a envoyés, mais on nous envoie pas toute la saison, et ensuite, ça passe à tous les spoilers de la saison. Et donc, au début, moi, je comprenais pas. Donc, je lisais la liste en entier. Et en fait, ça nous pourrit l'intégralité de la saison.
Ah d'accord. Donc, en vous engageant à ne rien révéler, on vous révèle tout.
Exactement.
À vous. Exactement. Avant donc, même d'avoir visionné.
On lit ces trucs-là avec beaucoup de prudence.
Et vous le prenez comme une contrainte dans votre métier, très sérieusement, cette manière de vous interdire de parler de telle et telle scène?
Oui, enfin plutôt comme une infantilisation, ouais. Parce que je suis journaliste, je sais ce que je fais, je respecte mes lecteurs, je suis pas là pour faire n'importe quoi, révéler toute l'intrigue et tout. Et en fait, c'est juste pour s'assurer de manière légale, littéralement. J'ai pas essayé de ne pas respecter l'embargo et de voir ce qui se passerait si on aurait un avocat qui déboulerait à la rédaction de Télérama. Je ne sais pas. Ceci étant dit, c'est vrai que j'aimais bien une époque où on pouvait dire aux journalistes, bon écoute, je te fais confiance, hein, tu fais pas l'abruti, tu me balances pas toute l'histoire. Aujourd'hui, c'est en train de se légaliser, ce qui en dit long sans doute dans la discussion du jour.
C'est une judiciarisation du spoil. Vous comprenez, vous, cette prudence des chaînes, des diffuseurs, Marie Roussin?
La prudence des chaînes, oui. La prudence de n'importe qui envers un ami qui adore regarder une série, de ne pas lui gâcher le plaisir, ça me semble normal. Essayer de légiférer là-dessus, ça me semble complètement dingue.
C'est quelque chose auquel j'avais même pas pensé, mais la vie quotidienne d'une scénariste de série, on doit vous demander sans arrêt comment ça se termine, qu'est-ce qui se passe ensuite.
Ça arrive.
Et tel personnage,
drôle. C'est très sympathique. Je veux dire, on veut qu'on nous demande ça. Si le jour où personne ne s'intéresse à ce que j'écris, ça m'ennuierait.
Vous l'avez vécu pour les bracelets rouges sur TF1?
Les bracelets rouges, j'ai surtout vécu une chose, c'est qu'il y avait une grande surprise à la fin de la saison 1 et on m'en a beaucoup parlé, en fait. On me demandait pas tellement, c'était 3 semaines de diffusion, il y avait 6 épisodes, la première saison. On me demandait pas tellement ce qui allait se passer après. Et de la même façon que pour le village français, généralement, le suspense ne dépendait pas de quel poumon allait avoir un cancer. C'était pas ce genre d'enjeu. En revanche, on m'a beaucoup parlé de la fin de la saison 1 et de cette surprise.
Il se passe quelque chose de très grave à la fin de la saison 1. Je sais pas si on va pas le dire là, mais c'est compliqué parce que... Comment écrire les articles de presse, notamment? Comment écrire il se passe quelque chose de très triste sans gâcher le plaisir? Parce que simplement savoir que quelque chose de triste va advenir, c'est déjà du gâchis, non?
Oui. Déjà, il faut pas faire ça. Non, la critique doit justement zigzaguer entre ces contraintes-là. Mais ça n'empêche pas de donner un sentiment, de dire que comment la saison a été ressentie. Et puis encore une fois, il est possible de faire un article où on critique la fin en donnant tous les éléments, mais en écrivant « Oh, attention !» D'abord, regardez l'épisode et ensuite, revenez nous voir.
Alors là, ça interroge notre relation aux séries, à Thibaut de Saint-Maurice. Je me tourne vers le philosophe parce que moi, je sais que personnellement, si on me dit « attention, ne lisez pas », j'ai envie de lire.
Oui, il y a un côté, c'est l'interdit qui crée le désir.
Bien sûr.
Je pense que ça interroge deux choses. La première, c'est ce que c'est comme type d'œuvre, une série. Est-ce que l'œuvre, elle commence au niveau de l'épisode? Est-ce qu'elle commence au niveau de la saison? Ou est-ce qu'elle commence et se termine au niveau de la série complète? Et aujourd'hui, on sait plus très bien parce qu'il y a des stratégies de diffusion très différentes. Netflix propose une saison d'un coup. Avec les plateformes, on peut finalement, si on est abonné à Canal ou si on est abonné à OCS, etc., on peut revoir tout d'un coup plein de séries, plein de saisons d'un coup. Enfin, elles sont disponibles. Et donc, qu'est-ce qu'on spoil et qu'est-ce qu'on... On peut spoiler un épisode, on peut spoiler une saison, on peut spoiler une série en entier. Donc déjà, ça interroge notre relation à l'œuvre en tant que telle. Et en fait, je crois qu'on n'a toujours pas exactement tranché ce débat de savoir où commence et où se termine l'œuvre d'une série. Et puis la deuxième chose, moi c'est une question qui m'intéresse beaucoup, c'est que au fond, le présupposé de le spoil est un crime, c'est de dire, d'une certaine manière, qu'une fois qu'on a vu la série, et qu'on sait ce qui se passe à la fin, on en a épuisé l'intérêt. Or, moi, il me semble qu'il y a un truc qui est génial, c'est de revoir des séries. Mm. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on a à se poser cette question-là, parce que chaque série chasse l'autre. Voilà. Chaque série chasse l'autre et se pose la question de est-ce qu'on va réussir à trouver des dispositifs et des intérêts pour nous faire revoir des séries. Je donne un exemple. Dans la première décennie des années 2000, il y a la série Lost. Mm-hmm. Lost, c'est un phénomène extraordinaire. Voilà. Aujourd'hui,
donc une île déserte, on le rappelle.
Voilà.
Les
aujourd'hui, il y a
accident.
Des spectateurs qui sont entrés dans ces grandes séries avec, je sais pas, Game of Thrones ou même Breaking Bad, ou des séries françaises comme Le Bureau des Légendes, etc., qui sont vraiment passionnés de séries, qui adorent ça, qui adorent la sérialité, l'attachement aux personnages, etc. Lost, ils n'ont jamais vu. Alors, ils ont peut-être entendu parler vaguement, mais ils n'ont jamais vu. Et la question, c'est est-ce que on peut entrer dans une sorte de maturité à l'égard de ces œuvres-là et conduire les gens à revoir les choses? Et quand on revoit les choses, on s'en fiche de la fin. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde sait comment ça se termine, le mépris chez Godard, les films de Scorsese, etc. Tout le monde sait comment ça se termine. La cinéphilie, elle s'est aussi constituée dans la capacité à revoir les films, à faire des rétrospectives, à proposer des articulations de certains cinéastes avec les uns avec les autres, etc. Mais bref, de proposer de revoir les films. À la télévision, par exemple, les émissions de cinéma qui proposaient de revoir les films. Est-ce qu'on va être capable de revoir des séries? Je pense que si on s'accroche à cette histoire de spoil, on n'en sera pas capable.
Pierre Langlais.
Oui, je suis assez d'accord avec tout ça. Et ça entraîne même cette culture du spoil, si j'ose dire, un truc du niveau de la communication qui est qu'il y a un certain nombre de séries, je pense à The Walking Dead, qui en a fait malheureusement une des preuves de sa chute, qui ne communique plus que sur qui va mourir. qui va vivre. Et c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus à l'histoire, mais on crée des événements ponctuels qui vont faire le buzz, comme on dit en bon français. Et ça, c'est extrêmement problématique. Ceci étant dit, à la différence d'un film... Après, oui, je suis complètement d'accord sur Lost. On peut revoir une œuvre et du coup, débarrasser presque du prix du suspense, aller plus au fond de son sujet. Mais la différence par rapport à un film, et ce qui rend le spoil, le divulgachi plus grave avec une série, c'est qu'on est engagé dans une relation sur la longueur. Et que on a envie, au fur et à mesure, de découvrir les surprises. On est embarqué dans une si on me dit ce soir ta soirée elle va finir comme ça, je dis ah c'est con, je sais comment ma soirée va finir. Mais si on me dit tu vas mourir comme ça, eh ben je suis déjà un peu plus embêté parce que c'est plus dans la profondeur et dans la durée.
Marie Roussin, cette obsession contemporaine pour le spoil, elle raconte aussi le pouvoir naissant du scénariste finalement dans l'œuvre de fiction, parce que le jeu des comédiens, la qualité de l'image, la qualité de la prise de vue, les dialogues, la photo, que sais-je, tout ça finalement est assez insignifiant s'il ne compte que le scénario, l'histoire et en particulier ce qui se passe à la fin du dernier épisode.
Je pense que l'histoire dicte tout, mais pas seulement la fin du dernier épisode. Évidemment, pas seulement la fin du dernier épisode. Mmh. Et après, je pense que ce sont deux plaisirs très différents de regarder, de découvrir en fait une série dont personne nous a parlé, où vraiment on est au courant de rien et on vit à fond les surprises, les rebondissements, les déceptions, enfin, et de la revoir, ou même de la voir une première fois, si on sait déjà tout ce qui va se passer, ce sont juste deux plaisirs pour moi de nature différente en fait.
Mais vous êtes d'accord avec Thibaut de Saint-Maurice pour dire que ce n'est pas si grave finalement? Je crois qu'il tranche pour non, le spoil n'est pas un crime, parce que ce n'est pas le seul intérêt de la série.
Non, je suis tout à fait d'accord pour dire que ce n'est pas le seul intérêt de la série.
Mais c'est un crime.
Mais il y a une partie du plaisir qui est gâchée, il reste tout le reste du plaisir qui existe encore et qui est le plaisir de la relecture d'un roman qu'on a déjà lu ou de, en effet, regarde.
Mais qu'on a déjà lu soi-même, ça c'est important, c'est pas les autres qui nous l'ont raconté, c'est le charme, c'est quand on l'a déjà lu soi-même. Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, bien sûr, mais encore une fois, il faut bien comprendre que si on va dans cette hystérie du spoil, comme ce qu'on a eu par exemple avec la dernière saison de Game of Thrones. Oui.
Et avec Avengers Endgame
ou
aussi.
Avec Avengers, c'est ça. Si on va dans cette hystérie du spoil, en fait, il y a un effet, je pense, alors je m'adresse à la scénariste, mais je pense qu'il y a un risque important pour la création ensuite, c'est d'avoir des créations qui vont surdéterminer ce spoil. Et ce que disait Pierre à propos de The Walking Dead, fin de saison 7, avec cette histoire de qui va se prendre le coup de batte, là, et qui va mourir.
Début de saison 7.
Ouais. Mais à l'articulation, en tout cas, d'une saison. Et en fait, on a l'impression d'être un peu floués, nous aussi, en tant que spectateurs, parce que là, on a l'impression clairement que notre attente et notre frustration, en fait, elle est exploitée de manière peu subtile par des gens dont le métier, au contraire, est de nous proposer des suspens et des surprises beaucoup plus subtiles. Donc, moi, je pense qu'en plus, ça comporte un risque pour la création.
Effectivement, on se sent exploité, vous ne croyez pas si bien dire. Par exemple, quand Game of Thrones organise de faux tournages, de faux épisodes avec les vrais comédiens de la série, ça a été fait pour la dernière saison, pour induire en erreur les paparazzis qui rôdent autour des tournages en mettant de fausses situations. Là, on se moque de nous ou c'est une magnifique ficelle marketing, Pierre Langlais?
Les deux, mon général. Et il y a aussi le cas de Sherlock, la série, où il y avait une histoire de Sherlock'd, c'est-à-dire que les fans traquaient le tournage et les acteurs avaient fini par dire « s'il vous plaît, laissez-nous bosser », parce qu'en fait, voilà, vous voulez absolument savoir où ça va se passer, quand ça va se passer, quel costume on portera, et ça pose un problème. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Thibaut, et c'est encore plus grave quand effectivement ça devient un outil marketing, c'est-à-dire que ça devient... On oublie ce qui est l'intérêt premier de la série, qui n'est pas forcément le cliffhanger, comme on dit en bon français aussi, c'est-à-dire ce truc d'écriture qui est de finir les épisodes sur un mystère, sur quelque chose qui va nous laisser en suspens. C'est d'aller explorer les personnages, leur profondeur. Enfin, en gros, c'est comme si vous demandiez à toute personne que vous rencontrez dans votre vie et dont, a priori, l'intérêt premier est de connaître, d'aller au fond de qui elle est, de son identité, de toutes ces choses-là, de lui demander de n'être qu'en fait que de cesser de vous surprendre, quoi. Que la vie serait une pochette surprise permanente et qu'il faudrait que à chaque tournant, on soit surpris qu'il y ait un truc neuf. Et c'est sans doute révélateur du monde dans lequel on vit, où on est dans une société où il faut tout avoir tout maintenant et on s'ennuie en fait si on creuse les choses.
Marie Roussin.
Je rebondis sur ce que disait Thibaut. Je pense que le risque pour la création du côté des scénaristes, c'est si on nous force à faire des fins coups de poing tout le temps. Le problème, c'est que pour s'intéresser à des personnages, il faut qu'on puisse les suivre, il faut qu'on comprenne leur cheminement. Et on peut être tout à fait surpris, et c'est généralement c'est le plus savoureux, c'est quand on est surpris et que pourtant tout est cohérent. Et à la fois on s'y attendait pas, et à la fois on se dit, bah évidemment, on y croit. Et le problème, c'est qu'à force de vouloir trouver des coups de poing et des surprises tout le temps, soit on sacrifie la cohérence du personnage, et alors là, on perd la série, on perd les personnages, soit on doit, pour garder la cohérence des personnages, se reposer sur des événements extérieurs, c'est-à-dire lui, là, on n'a rien à lui faire faire de surprenant, parce que rien ne le justifierait. Alors, il va traverser la rue, un camion va arriver. Parce que bah là, au moins, ce sera une surprise, et puis ce sera cohérent, parce qu'on pourra rien dire, hein, ça arrive dans la vie, les accidents de voiture. Ouais. Mais donc, se reposer sur des événements extérieurs totalement inintéressants.
Vous savez sans doute qu'Amazon prépare une grande série autour du Seigneur des Anneaux. J'ai lu dans la presse que les scénaristes travaillent dans une pièce verrouillée par lecteur d'empreintes digitales, dont les fenêtres sont obstruées. On n'est pas loin du secret défense, là, Marie Roussin.
Oui, je ne savais pas ça.
Elle aussi travaille pour Amazon en ce moment, on le rappelle. Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, on n'est pas loin du secret défense. C'est ce que disait Pierre tout à l'heure sur l'exercice de la critique journalistique. On n'est pas loin de la censure non plus. Mm-hmm. Ce qui pose aussi voilà, une difficulté. Le problème n'est pas de savoir si on a le droit de dire quelque chose ou pas le droit de le dire. Le problème est de savoir si on informe convenablement son lecteur, comme le disait Pierre, et si le lecteur est en mesure de pouvoir choisir de lire ou non le texte qui va parler de cette série. Moi, je trouve ça très dommage, cette hystérisation, encore une fois, enfin, en tout cas, cette exagération, on va dire, de cette logique du spoil, parce que, en fait, on quand on est comme ça dans cette quête de surprise et de suspense, et ça vaut pour la littérature et pour le cinéma et pour peut-être même le théâtre, on perd une qualité d'attention et une qualité de regard à ce qui nous est proposé.
Alors, vous semblez tous dire que ce n'est pas si grave, le spoil. J'aimerais nous lire des réactions d'auditeurs et d'auditrices qui nous parviennent et qui vont dans l'autre sens. Dévoiler la chute d'une œuvre relève d'une forme d'exhibitionnisme, voire d'un crime de lèse-majesté à l'encontre de son auteur, nous écrit cet auditeur. Il y a sans doute bien d'autres manières d'exciter ou de titiller la curiosité de ses auditeurs que de raconter la fin. Ça, c'est pour les gens qui spoilent à la radio, j'imagine. Fabienne Sintès de France Inter qui nous écoute écrit ceci. Oui, le spoil est un crime, mais pas pendant des mois, précise-t-elle. Et là, on aborde la question du délai de prescription. Pour Game of Thrones, par exemple, quand tout le monde entier en parle, dans mon bureau, on donnait 72 heures à chacun pour voir l'épisode et après, on lâchait tout. Ça vous choque, ça, les uns les autres, Pierre Langlais ?
Bah non, si tout le monde est d'accord.
72 heures, c'est court quand même. Hein.
Oui, mais si tout le monde est d'accord, il y a une forme de contrat social qui vient s'ajouter à ça. Et en fait, il ne peut pas y avoir une règle universelle. La règle universelle, c'est le respect. Mmh. Et le respect, dès qu'il est entendu entre collègues que on se donne 72 heures, ok les mecs. Et puis après, on n'est pas obligé d'hurler à travers l'open space. On n'est pas obligé de, voilà, on peut aussi faire ça un peu discrètement et respecter ceux qui préféreront voir plus tard ou prendre la position de Thibault en disant, bah, c'est pas grave, ça vous empêchera pas d'aimer la série. C'est vrai que ça, il faut quand même, ça ne spoil pas au sens où ça ruine, ça amenuise le plaisir.
Voici ce que nous écrit Mélodie. Le spoil n'est pas devenu une obsession soudaine, hein, c'est juste notre consommation de la série qui est différente. Avant, on regardait tous le même épisode à la même heure, qui passait sur une grande chaîne. Aujourd'hui, on regarde notre épisode quand on veut. Avant, pas de spoil, car personne ne pouvait descendre une saison entière en une nuit, avant tout le monde. Effectivement, le cinéma n'est pas épargné par le spoil. Combien de courriers furax ont reçu les critiques du Masque et la Plume, par exemple, à chaque fois qu'ils racontent la fin d'un film? Le Festival de Cannes, cette année, il a été beaucoup question du spoil, et notamment pour le film de Tarantino, qui a écrit une lettre ouverte assez solennelle à son public pour conjurer tout le monde de ne pas dévoiler le film. C'est pas un peu mégalo, ça, Thibaut de Saint-Maurice ?
C'est compliqué parce que, justement, j'avais l'exemple en tête, mais il y a aussi une donnée supplémentaire pour renforcer un peu la complexité du débat. C'est l'intention de l'artiste, mm-hmm. L'intention de l'auteur.
Si elle est purement marketing ou si elle est sincère.
Exactement, voilà. Et il est concevable qu'un auteur, un scénariste, enfin, je parle sous le contrôle de Marie ici, mais il est concevable qu'il y ait cette intention de surprendre son public et donc de créer un effet de réception assez massif, et donc il est concevable tout à fait qu'il y ait cette intention artistique. C'est compliqué, c'est que à trop user de cette ficelle, parfois on l'a dit tout à l'heure, en fait cette intention artistique, elle peut être récupérée par des motivations marketing, quoi. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Et puis il y a cette question aussi de, ça interroge le rapport qu'on a chacun à notre propre imaginaire et à la surprise. Mmh. En fait, la question, ça pourrait être, est-ce que vous aimez ou pas les surprises ? Et parfois, c'est génial de savoir, par exemple, où est-ce que notre chérie nous emmène en week-end, parce qu'on s'y prépare, parce qu'on se l'imagine, etc. Et parfois, au contraire, c'est génial de pas savoir du tout. Et donc, c'est aussi une question qui est plus intime.
Est-ce que le film de Tarantino méritait une telle mise en garde, Pierre Langlais ?
Je sais pas, je le verrai la semaine prochaine.
Personne l'a vu autour de la table ?
Je le vois la semaine prochaine. Mais, mais pour le coup, ça, c'est là que, effectivement, la question de l'auteur et de son intention compte. C'est que, est-ce que c'est Tarantino qui a fait ça parce qu'il est malin et qui sait que c'est intéressant de voir son film comme ça, ou est-ce que c'est le studio qui veut que les gens se ruent dans la salle parce que ça rajoute un truc. Honnêtement, quand on a DiCaprio et Pitt à l'affiche et que c'est Tarantino qui réalise, je pense qu'il n'a pas besoin de ce genre de manœuvre.
Alors, je sais pas vous, mais moi, parler de Tarantino me donne une envie irrépressible d'écouter Nancy Sinatra. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Bang, bang, c'était Nancy Sinatra sur France Inter. Trois invités dans ce studio du débat de midi pour parler de l'allergie contemporaine au divulgâchis, le spoil en anglais qui consiste, je le rappelle, à dévoiler l'intrigue d'une fiction. Le spoil est-il un crime ? On va passer tout de suite un coup de fil à l'auteur d'un livre étonnant.
Le débat de midi, Dorothée Barba sur France Inter.
Spoiler alerte, alerte, c'est le titre de ce livre à la couverture rouge publié l'été dernier aux éditions Hachette. Bonjour Mathilde Gorce.
Bonjour Dorothée Barba.
Vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui raconte la fin de dizaines et de dizaines de séries. On y trouve en vrac Friends, Une nounou d'enfer, Buffy contre les vampires, Twin Peaks et j'en passe beaucoup. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Je crois que vous n'êtes pas la première à me poser la question. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, pour répondre, je pense à la curiosité des spectateurs des années 80-90 qui ont eu le plaisir de découvrir les séries que vous venez de citer, notamment sur petit écran, au gré de diffusions un peu aléatoires et qui ont des souvenirs flous. Et l'idée, c'était un peu de se replonger dans ces univers qu'on a tant aimé à une époque et qu'on a parfois oublié et qu'on n'a pas toujours le temps de re-regarder. Donc ça permettait de se remettre un peu au goût du jour.
Sur la couverture, on peut lire que c'est le livre qui va vous faire gagner du temps de vie. Est-ce à dire qu'il est obligatoire de tout savoir sur toutes les séries, Mathilde Gorce ?
Oh non, il est obligatoire de rien du tout. C'est juste
Merci,
un plaisir.
C'est sympa.
c'est un plaisir en fait de se replonger dedans. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Quand on s'est posé la question d'écrire le livre, on s'est aussi dit qu'il y avait tout un pan de gens qui n'arrivaient pas à rester à jour sur certaines séries diffusées en cours de production, en tout cas. Et donc, on s'est dit que c'était important de peut-être leur apporter des réponses. Je pense notamment à des spectateurs qui ont entendu parler de La Casa des Papel à la machine à café et qui n'ont pas le temps de regarder La Casa des Papel. Voilà, ils sont pas obligés de savoir, mais ils ont peut-être envie de savoir pour pas rester sur la touche. Et ce livre a apporté aussi quelques réponses.
La scénariste Marie Roussin a une question pour vous, je crois.
C'est pas directement une question, en fait. Je rebondis sur ce que tu disais. Je pense que notre consommation des séries télé, elle change, elle va se rapprocher peu à peu de notre consommation des livres. Et en fait, je n'en reviens pas aujourd'hui quand j'entends les gens dire mais c'est affreux, on n'a plus le temps de tout regarder. On n'a jamais dit c'est affreux, on n'a pas le temps de lire tous les livres qui existent.
La chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres.
Et voilà. Et donc ça fait gagner du temps de vie, mais en fait le plaisir c'est la lecture et le plaisir, ce sera le visionnage de certaines séries, on les regardera
C'est vrai que vous prenez ça presque comme un handicap social de n'avoir pas vu, par exemple, Casa des Papel, Mathilde de Gorce.
C'est un mot très fort, mais il est vrai que, par exemple, pour Game of Thrones, on a vu là, il y a quelques semaines, si vous ne regardez pas Game of Thrones, vous êtes vraiment très embêté socialement parlant. Vous restez en dehors de nombreuses conversations. Est-ce à dire que c'est grave? J'en suis pas sûre. Mm-hmm. Pour autant, ça peut donner envie à certaines personnes de se mettre à jour sans avoir forcément à regarder toutes les saisons de Game of Thrones. Voilà, savoir quels sont les enjeux, qui sont les Lannister, qui sont les Stark, sans avoir à regarder cette saison.
Le problème de ce livre, il est de taille, c'est qu'on ne peut pas tout lire. Si on veut lire seulement certaines séries et pas d'autres, comment on fait?
Alors, vous avez une table des matières au début, ce qui vous permet de piocher.
On a la liste des personnages qui meurent aussi, ça c'est pas mal.
Alors, à la fin. Donc, contentez-vous du début. L'avantage, c'est que c'est un spoil choisi et pas subi. Voilà, et ça c'est la grande différence, qu'aujourd'hui, le spoil est subi, et c'est bien là le problème. Même si, effectivement, le principe de précaution est quelque peu rentré dans les mœurs aujourd'hui. Hein, on se soucie de son voisin de table, de son ami, de savoir s'il a regardé tel ou tel épisode. Donc, voilà, on sent qu'il y a une façon de parler des séries qui a changé aussi. Mais voilà.
Et on peut parler donc de principe de précaution, même quand il est question de séries télé. Merci beaucoup, Mathilde Gorce. Spoiler alerte, ça a donc paru l'année dernière. Hein, c'est toujours disponible aux éditions Hachette. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Et à bientôt. Je suis toujours avec mes trois invités. Pierre Langlais, critique de série à Télérama. Marie Roussin, scénariste notamment des Bracelets Rouges sur TF1 et d'Un Village Français sur France 3. Et le philosophe sérivore Thibaut de Saint-Maurice. L'injonction sociale, alors, tout voir, avoir tout vu, pouvoir parler aussi bien de Casa des Papel que de Game of Thrones. Est-ce qu'elle est lourde à porter, cette injonction?
D'abord, c'est assez génial de pouvoir la reconnaître, cette injonction, parce que ça veut dire une chose. Vous avez dit de pouvoir parler d'une série, de Casa de Papel ou Game of Thrones. Ça veut dire en fait que ces séries sont devenues le matériau premier de nos conversations. À la machine à café, en famille, entre amis, etc. Ce qui d'abord n'était pas toujours gagné, hein. Il y a pas si longtemps d'ailleurs, voilà. Parler de séries, c'était compliqué parce que c'était pas un registre noble, c'était pas de la culture, c'était pas bon. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ça crée du lien. Ça veut dire que c'est facteur de lien social, de lien culturel, et que je crois que c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement, on fait partie d'une communauté, d'une génération, d'un moment, d'une époque. C'est quand on a des références à partager les uns avec les autres. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse en parler. Maintenant que le fait que ces conversations deviennent tout d'un coup extrêmement structurées en disant tu peux dire ça mais pas dire ça, ou tu ne dois pas aller plus loin qu'eux, etc., ça reste toujours un peu inquiétant.
Alors justement, certains ont émis l'idée, notamment La Nuit Originale, qui est une chaîne YouTube, ont émis l'idée d'une charte anti-spoil, une charte, presque une loi, un document que signeraient les médias pour s'engager à ne pas, à ne rien divulgâcher. Marie Roussin, qu'en pensez-vous?
Ça me semble assez délirant.
Voilà, faut-il une loi contre les spoils, Pierre Langlais?
Non, faut pas une loi contre les spoils, faut encore une fois un peu de respect et être raisonnable. Ça me paraît tellement logique, mais c'est peut-être en fait que on ne réalise plus sur les réseaux sociaux et tout qu'on cause entre êtres humains, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour donner nos avis.
On sent que vous avez mal, vous, sur les réseaux sociaux.
Non, j'ai trouvé des méthodes très radicales, blocage, mutage, toutes ces choses-là. Il y a des outils pour se protéger des gens qui ne respectent pas la façon dont on a de pouvoir... Moi, je considère que c'est un dialogue de respect, d'échange. Et le spoil en fait partie, c'est-à-dire que je respecte mes followers, comme on dit en bon français, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et donc je fais attention à ne pas... En revanche, je ne tolère pas un nouveau type de spoil qui est le spoil d'avis, c'est-à-dire que quand je dis... Ouais, dis donc, j'ai pas trop aimé la nouvelle saison de trucs, je trouve des gens pour me dire, mais arrête de nous dire comment on doit ressentir. Ben, c'est mon job, en fait. Donc, moi, mon métier, c'est de vous dire si j'ai aimé ou pas. Donc, si vous voulez pas que je vous dise ce que j'ai aimé ou pas, ne me suivez pas, parce que ça, je vais le faire. Mais c'est pas pareil que de balancer la fin de la série, quoi.
C'est de l'irrespect total, nous écrit une auditrice. C'est comme si vous donniez le résultat d'un match de foot avant de l'avoir vu. Ça n'a aucun intérêt. On ne respecte plus rien. Anne nous rappelle que Hitchcock demandait dans la bande-annonce de Psychose de ne pas dévoiler la fin du film. Voilà, beaucoup de réactions pour nous dire que c'est très grave, évidemment. Vous vous souvenez de cette histoire à Bordeaux? Je crois que c'était cette année, hein, des affiches sauvages dans toutes les rues de Bordeaux pour raconter la fin de Game of Thrones.
Il y avait aussi le New York Post aux États-Unis avait fait une avec marqué Game Over avec un certain personnage de Game of Thrones qui était décédé à la fin d'une saison. Ça a fait énormément de bruit.
Ouais. Pas plus, s'il vous plaît. Il existe tout de même des séries qu'on ne peut pas divulgâcher. Marie Roussin, Columbo, par exemple, ces bonnes vieilles séries bouclées où il y a un début et une fin dans chaque épisode et qu'on peut regarder dans le désordre si on le souhaite. Elles sont plus tellement dans l'air du temps, ces séries. Là aussi, ça en dit long sur l'époque.
Les diffuseurs adorent ce genre de séries parce qu'elles permettent de diffuser justement dans n'importe quel sens. On n'a pas à s'inquiéter de qui regardera l'épisode numéro 3 pour avoir envie de regarder le numéro 4. Mmh. Donc les diffuseurs aiment beaucoup ce genre de séries bouclées. Pour les spectateurs, c'est un grand plaisir, je trouve, de retomber comme ça en zappant sur un épisode qu'on a déjà vu et on le regarde pour le plaisir. Mais là, on est très très loin du spoil.
Ouais. Oui. Game of Thrones, pour en revenir à cette série qui a tenu en haleine des millions de fans dans le monde entier pendant 8 ans, elle s'est terminée sur beaucoup de frustration et de colère et même une pétition qui demandait la réécriture de la saison finale. Thibaut de Saint-Maurice, quel regard portez-vous sur cette affaire de pétition?
Peut-être pas exagérer non plus, quoi.
Ça me fait penser à Misery, en fait.
C'est-à-dire
c'est la folle qui kidnappe l'auteur de ses romans préférés pour dire tu arrêtes de la tuer, tu la fais revivre.
Le roman de Stephen King, hein, c'est
oui,
ça, adapté au cinéma.
King.
Voilà. Vous avez peur de ça, vous, Marie Roussin, en tant que scénariste?
Qu'une dingue m'attaque. Mm-hmm. Non, j'ai pas encore peur de ça, mais je trouve quand même quand on entend des gens faire une pétition pour réclamer la réécriture, enfin c'est vraiment du grand délire.
Tchernobyl, The Crown, pour citer deux exemples de séries récentes. Voilà, des séries par définition. On connaît la fin, Pierre Langlais?
Oui, donc là, pour le coup, enfin, on connaît la fin, oui et non. C'est-à-dire qu'on connaît la fin, c'était d'ailleurs la même question qu'avec Un village français. On connaît la fin historique, mais on connaît pas nécessairement la fin des personnages et leurs troubles personnels, intimes. Et c'est là que le spoiler, en gros, peut faire son apparition. Mais juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant, là où il y a un grand problème dans cette histoire de pétition, mais aussi dans les spoilers, c'est qu'on est tellement à un endroit où les gens commencent à dire « c'est ma série ». Et à s'approprier l'œuvre, ce qui en soi peut être intéressant, qu'on oublie que c'est avant tout, c'est pas sa série, c'est l'œuvre d'un auteur. Et en fait, l'auteur ne doit pas rendre de compte sur son histoire. On a le droit de dire que c'était bien ou pas bien, mais c'est son histoire. Et si on arrive à un monde, d'ailleurs, il y a eu un épisode comme ça de Black Mirror sur Netflix où on pouvait choisir les faut pas que ça se généralise. Si on regarde ces histoires, c'est justement, notamment pour se faire balader et pour être surpris. Et pour être touché par l'émotion de quelqu'un qui n'est pas nous, mais qui partage les mêmes émotions que nous. Donc si on se retrouve dans des histoires où c'est à chaque fois le téléspectateur qui va décider de là où on va, avec tout le respect que j'ai pour les téléspectateurs, c'est pas des scénaristes. Ils savent pas raconter des histoires. Donc laissons les scénaristes faire leur travail.
Thibaut de Saint-Maurice.
Après, je crois qu'il y a aussi un effet qui est très propre à la sérialité et au temps long de ces séries et du temps qu'on passe avec elles. En fait, on dit beaucoup et souvent que on grandit avec une série. Alors, c'était vraiment d'autant plus le cas quand ces séries étaient diffusées sur un rythme hebdomadaire, une saison par année, etc. Donc on dit, voilà, Friends, c'est 10 saisons, on a passé 10 ans avec les Friends, ou Urgence, 15 ans,
etc. En colocation avec eux pendant 10 ans, c'est
exactement. Donc on passe beaucoup de temps. Et du coup, dans ce contexte-là, finalement, raconter la fin, ça serait comme raconter la fin d'une sorte d'histoire d'amour ou la fin de... Et je crois que personne ne voudrait vivre sa vie en sachant quelle est déjà la fin à laquelle il va arriver. Voilà, il y a une sorte de mimétisme de ma vie de spectateur, de ma vie avec la série et de la vie de la fiction qui est assez intéressant. C'est-à-dire que finalement, là, je peux comprendre ce côté. On a engagé, on a vécu avec ces personnages. En fait, on a noué une histoire avec eux. Ça fait partie de ma vie. Et en fait, quand je vous raconte la fin de la série, je vous raconte aussi un petit peu la fin d'une partie de votre vie.
Un morceau de moi.
Exactement. Mmh. Ça peut être effectivement assez violent, assez déstabilisant.
Marie Roussin ?
Ça aussi, je pense que dans notre expérience de visionnage des séries télé, ça va changer parce que comme on les regarde beaucoup plus vite, on a moins le temps de discuter. D'ailleurs, on parle beaucoup de discussions de saison, là, mais avant, les discussions de machine à café,
c'était par épisode. Avons-nous perdu le goût de l'impatience ?
Ah ben, je crois qu'on est dans la satisfaction immédiate tout le temps.
Et d'accord, il y a un truc complètement scandaleux qui est le speed watching. Du coup, les gens regardent en version accélérée pour être les premiers à avoir fini.
J'aimerais terminer avec une question sur les bracelets rouges. Marie Roussin, vous avez, je crois, quitté la série. Vous ne serez pas au générique de la saison 3,
oui,
qui sera diffusée l'année prochaine sur TF1. Est-ce que vous allez la regarder à la télé ou est-ce que vous connaîtrez l'histoire avant tout le monde?
Oh, j'ai quelques éléments d'histoire déjà, mais je vais la regarder. Oui,
ça doit être très bizarre, non, pour une scénariste qui a dessiné la psychologie de chaque personnage, de se retrouver à l'extérieur.
Oh, c'est très intéressant. Je suis impatiente.
Donc on vous spoile pas la saison 3 des Bracelets Rouges.
Non.
Allez, voici celui qui a osé emprunter le titre de sa chanson à France Gall. L'homme pâle sur France Inter. Le morceau s'appelle Évidemment. Le rappeur français sera en tournée dans tous les festivals cet été.
D'accord. Mais... Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de vin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant j'ai plus 19 ans et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en van. Sur scène je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que déconner, pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages, ouais. Bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. C'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses gardes, trop fausses gamins, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant.
C'est c'était L'Homme pâle sur France Inter. On a parlé séries télé avec mes invités. Et Pierre Langlais avait lancé un sondage sur Twitter. Alors oui ou non, le spoil est-il un crime? Résultat?
Oui, 80% pour le « c'est un crime » et seulement 20% pour le « c'est pas grave ».
C'est pas grave, c'est pas si grave. J'ai à présent une toute dernière question à vous poser.
Le débat de midi sur France Inter.
J'aimerais connaître, question rituelle dans cette émission, un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. Qui veut commencer? La scénariste Marie Roussin?
Je commence. Je pensais vouloir connaître le sexe de l'enfant que j'attendais.
Ah.
Et je trouvais ça très farfelu de faire la démarche de ne pas la connaître, parce qu'aujourd'hui il faut demander à ce qu'on ne nous le divulgue pas, justement.
C'est du spoil.
Voilà, c'est du spoil. Et j'ai complètement changé d'avis. Pourquoi? Pendant ma grossesse. Alors au tout début, c'était tout simplement le père de mon enfant qui, lui, voulait ne pas savoir. Et je pensais que j'allais pas tenir, donc j'avais dit
je le saurai, toi pas. Mais voilà,
il y aura sans doute un moment où je vais vouloir le savoir. Et en fait, j'ai changé d'avis. Ce moment n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que voilà, j'ai découvert le sexe de notre enfant à l'accouchement.
C'était finalement une surprise. Thibaut de Saint-Maurice, même question. Un changement d'avis?
Oui, moi j'ai changé d'avis sur la ratatouille.
Ah, génial.
Je croyais que la ratatouille, et j'étais convaincu que la ratatouille était un plat d'hiver, parce que c'était mijoté.
Et en fait, c'est un plat d'été, il y a des tomates.
C'est un plat d'été.
Qui mange des tomates en hiver, Thibaut?
Exactement, et en fait, je commence à aimer ça l'été aussi.
Mais c'est fabuleux, le philosophe nous surprend chaque jour. Pierre Langlais, un changement d'avis.
C'est moi qui vais jouer au philosophe, du coup.
Ah, merci.
C'est un changement d'avis qui est en cours, en plus, donc c'est difficile, c'est quand on prend une décision. Ouais. Mon rapport au temps, c'est complexe, du coup. J'ai toujours vécu dans une forme d'urgence, même quand je prenais mon temps, je voulais qu'il se passe plein de choses. Je voulais que ma vie soit pleine en permanence, sans doute une angoisse de mort, des choses comme ça.
Vous aviez peur du vide.
J'avais peur du vide, extrêmement. Et je suis en train d'apprendre à apprécier le vide et à apprécier, justement, comme disait le personnage d'une série génialissime que personne n'a regardé qui s'appelle Rectify, l'espace entre les secondes. Est-ce que ça peut représenter d'un point de vue existentiel?
Il y a une vieille émission de France Inter qui s'appelait « Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous ». Il fallait le prononcer régulièrement, le nom de l'émission, c'était un peu casse-pied. Mais,
mais c'était
vous allez faire ça tout l'été, Pierre Langlais?
Oui, l'été s'y prête assez bien.
Rapidement, très rapidement, un souvenir traumatique de spoil quand même. Vous avez-vous été traumatisé par un divulgachi, Pierre Langlais?
Moi je me réveille toujours avec mon radio réveil qui s'allume, et depuis que j'ai 10 ans c'est le même, et je me rappelle très bien qu'un matin il s'est rallumé sur une radio musicale jeune, parce qu'à l'époque j'avais à peine 15 ans.
C'était pas nous donc.
Et c'était quelqu'un qui disait « Ouais, à la fin du sixième sens, bim !»
Bam !
Le truc terrible, alors que j'avais pas vu le film quoi, voilà.
Le sixième sens repose évidemment sur le twist de fin. Même question, non, autour de la table?
Non, un souvenir marquant, c'est quand quelqu'un a essayé de m'expliquer la fin d'un film de David Lynch.
Le sens de la fin. Marie Roussin.
Pas vraiment, je me souviens de fin de saison marquante, et j'aurais pas aimé qu'on me raconte le début de la saison d'après, mais personne ne pouvait le faire à l'époque.
Un grand merci à tous les trois. Marie Roussin, on attend donc votre série Amazon, c'est pour quand?
Le tournage devrait être en janvier 2020.
Et on n'en a rien su. Thibaut de Saint-Maurice, des philosophes et des héros chez First Edition. Pierre Langlais, on vous lit bien sûr dans Télérama. Votre magazine consacre sa une au Festival d'Avignon cette semaine. Et je recommande votre blog Série Rama sur le site internet de Télérama. Le débat de midi revient lundi avec un débat sur le camembert, figurez-vous. De vives inquiétudes chez les amateurs de ce morceau de patrimoine français. On parlera d'une réforme de la charte AOP. Ça sent mauvais pour le camembert.